est la vigie. Vois-tu ce point lumineux sur le rivage? C'est le feu de camp d'Allô la planète. Mettez la chaloupe à la mer. Allons-y. L'émission est présentée par Quentin et Sophie de Fréquence 7.
Bonjour à toutes et à tous, voyageuses, cyclistes, navigateurs, marcheurs et rêveurs. Bienvenue autour du feu de camp, le plateau radio du festival Joyeuse Escale 2023, co-animé par Allô la planète et Fréquence 7. Et à mes côtés, Flo, coordinatrice, une grande prêtresse du festival.
Bonjour.
Bonjour Flo. Tu es avec nous pour recevoir, alors ce soir on a plusieurs plateaux. Un premier plateau, voyage et dépassement de soi, peut-être on peut l'appeler comme ça, avec Perrine Rambaud qui a parcouru 11 500 milles nautiques en 3 ans et sans expérience, c'est ce qui est marqué sur la petite note. Ça fait à peu près plus de 20 000 km, c'est ça. Et Rémi Camus qui a notamment traversé l'Australie en courant. Et qui intervient dans les écoles pour témoigner un petit peu de tout ça. C'est premier ça. Plateau. Bonjour à tous les deux, puisque vous êtes déjà là.
Bonjour, bonjour.
On continuera avec un autre plateau, un autre compagnonnage, plutôt avec Gauthier Histin, qui est parti solo dédo, c'est ça?
Oui, c'est ça, solo dédo.
Seulement avec le pouce, pendant 6 mois en Amérique du Sud, mais qui est aussi faiseur de musique, faiseur de livres, et champion de coupe mulet.
Alors, oui.
Tout ça m'a furieusement intriguée. Donc, il sera là dans une quinzaine de minutes pour en parler. Et puis, il y aura aussi la sonothèque d'Hélène. Mais il est là même.
Il n'est pas très loin.
Il n'est pas très loin, là. On est dans la caravane de Fréquence 7, et on le voit passer à travers... les fenêtres. Et il y aura donc la sonothèque d'Hélène et aussi en fin d'émission la découverte d'une plateforme de volontariat avec travelwithamission.org.
Avec Emeline.
Avec Emeline.
Ça va toi,
Emeline? Oui. Oh, mais tu es au courant, Perrine.
Je lui disais à l'instant que je connais Twam depuis 2013. Elle me dit, mais ça fait 10 ans que ça existe. Je lui dis, à l'époque, il n'y avait rien.
Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour, rebonjour à tous les deux, Perrine et Rémi. Voilà, première question. Donc, on parle d'un plateau voyage et dépassement de soi. Mais juste pour caler les choses, ce qui m'a donné envie de vous recevoir tous les deux, c'est une table ronde qui a eu lieu sur comment vaincre sa peur de l'inconnu. Et qui m'a fait me poser plein de questions... Rester sans réponse, et donc je vous invite pour peut-être y répondre ou ouvrir sur de nouvelles questions. Ma première question, c'est comment vous présentez? Je ne vais pas vous présenter, mais comment... Alors, peut-être donner la parole
On va commencer par Perrine.
Je suis en face, donc c'est normal que ce soit pour moi. C'est difficile de se présenter parce qu'il y a plusieurs contextes.
Alors, on va quand même parler simplement du contexte voyage-aventure.
Exactement.
Tu peux me dire que tu fais des confitures tous les dimanches. Ça peut être une information intéressante, ceci dit, mais ça m'intéresse. Je laisse carte blanche.
Pour après. Tu m'as présenté sous l'angle de la voile, puis c'est la conférence que je donnais. Mais je pense qu'effectivement, ce qui regrouperait un petit peu tout, c'est le voyage lent. Et le point de départ du voyage lent, c'est un burn-out professionnel en 2014 et me rendre compte que j'étais bonne à ce que je faisais, que je pensais que j'adorais ça, et en fait, c'est pas ça qui me nourrissait. Donc j'avais plus de jus, et je savais que ce qui me manquait, c'était plus de voyages, et j'écoutais Allô la planète depuis toujours. Et donc, quand j'ai su que je pouvais pas chercher un autre job et rester dans le même milieu, je me suis dit, très bien, je vais... prendre un sac à dos, petit, parce que je suis un petit gabarit et que j'avais pas beaucoup de jus, donc 35 litres, et je vais aller voir là-bas si j'y suis. Donc j'ai commencé petit, plutôt en Europe, après j'ai pris mon permis vacances-travail, parce que j'arrivais à 31 ans pour la Nouvelle-Zélande. Et à partir de là, en fait, j'ai continué à tester toutes les voies de voyage que Allo la Planète m'avait proposées pendant des années. Donc, du bénévolat, de la marche, du vélo solaire, j'en oublie plein, de la voile, l'habitant, le stop, solo dédo. J'ai remonté toute la Nouvelle-Zélande. Une fois que j'ai eu plus de confiance en moi, etc., j'ai tout remonté en stop. C'était extraordinaire. Donc, tu parles d'inconnu. Bah, au tout début, je me disais, mais zut, ma chance, parce qu'on a tellement de chance en voyage, ma chance va s'arrêter aujourd'hui. Et en fait, jamais, c'était encore plus, encore plus, encore plus. Et tu te dis, mais ça, il faut qu'il m'arrive. Enfin, il faut.
Oui.
C'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Tout le monde m'a dit toute ma vie que c'était dangereux, la vie. Donc voilà. Donc je me définirais en voyageuse lente et voyageuse de l'instant, en fait. Le voyage ne s'arrête pas, c'est la vie, pour moi. Mmh. Le plus beau voyage, c'est la vie.
Ah, intéressant. Bah, justement, on va y revenir. Juste, donc, je donne la parole à Rémi. Toi, comment tu te... Je ne vais pas dire définirais, mais comment tu te présenterais ?
Il y a le même problématique, c'est en fonction du public que tu vas avoir en face de toi. Souvent, les gens, quand c'est des entreprises, eh bien, je suis aventurier explorateur, formateur en technique de survie, et membre de la Société des explorateurs français. Mmh. Quand c'est pour des enfants dans les écoles, je leur dis je suis un ancien maître d'hôtel dans la restauration qui est à Vrillé et qui est parti vivre ses rêves. Donc c'est pas du tout la même approche. Mmh. Et j'essaie souvent avec les enfants de leur apporter un peu plus de rêves pour qu'ils puissent de leur côté eh bien, s'épanouir et puis sortir ou plutôt élargir leur zone de confort.
Mmh. Dans ce que, alors vous avez déjà esquissé des choses, toutes les deux. Pour vous, c'est quoi le voyage ? Toi, tu disais... je te laisse
non,
dire.
T'inquiète, vas-y. Non,
c'est sa vie.
Voilà, t'as fait vraiment le rapprochement.
Moi, j'ai pas envie de séparer. Voilà, tu vois, on parlait d'étiquette, etc. Enfin, on n'a pas parlé d'étiquette, mais c'est ça, en fait, l'idée. Mm. C'est même ce que je fais professionnellement, pour moi, c'est un voyage. Je suis devenue coach parce que les gens venaient me poser des questions. Et aujourd'hui, bah, les gens, au quotidien, je voyage avec eux, je chemine avec eux, je découvre leur univers et je suis à chaque fois émerveillée et ça vient me toucher personnellement. Le voyage, il est sans fin. Il est sans fin si on a les yeux ouverts, si on est disponible et si on est dans l'échange.
Et alors là, du coup, ma question, pourquoi partir ? Si le voyage est là maintenant, dans l'ouverture, dans la disponibilité,
dans la rencontre,
pourquoi partir ?
Pour ouvrir plus grand.
Ouvrir plus grand.
Tout simplement, t'ouvres plus de portes. Mm. Et après, tu reviens enrichi et ça nourrit le quotidien. Bon, après, on va en parler un petit peu plus. Moi, je me suis Covid sédentarisée par accident. Et malgré tout, voilà, j'aime être en mouvement. La routine, elle s'installe toujours de toute façon. Je te dis que je voyage au quotidien, mais malgré tout, je me déplace de ma chambre à coucher à mon bureau et j'ai envie d'aller voir les colibris et j'ai envie de sentir le vent sur mes joues et j'ai pas envie d'être entre quatre murs toute la journée. J'ai envie de marcher, sentir mon corps, sentir le chèvrefeuille, là, quand on arrive ici, qu'on va vers...
extraordinaire.
Ouais, exactement.
Ce festival, même, juste simplement pour ça, pour passer toujours devant ce chèvrefeuille qui nous amène ailleurs.
Oui, c'est le début du voyage.
Exactement, c'est le début du voyage. Pour toi, Rémi
Le fait de partir en voyage te permet de mieux revenir. Mmh. Et c'est comme ça que j'apprécie, j'allais dire, ma vie de tous les jours. Parce que tout le monde kiffe avoir un bon lit. Tout le monde kiffe avoir une bonne douche, tout le monde kiffe se poser autour d'une table avec des potes et boire une bonne bière. Mmh. Et c'est toujours agréable de se rendre compte de ce qu'on a à la maison et d'apprécier les choses parce qu'on est tous des humains. Et tu viens de le dire, la routine s'installe et on oublie des fois rapidement le contexte, comment c'était là-bas, comment j'en bavais, j'en ai eu plein le dos de ça, parce que c'était inconfortable, parce que ceci, parce que cela. Et quand on revient dans la réalité ou dans une réalité et on se dit bah en fait c'était plutôt bien, plutôt cool et la condition de vie que j'ai ici elle est très agréable et c'est par le fait de partir, de me mettre dans des conditions, dans des environnements un peu difficiles où j'élargis ma zone de confort que je m'aperçois que ce que j'ai à la maison eh bien c'est trop bien de pouvoir voir les sourires de tes enfants, de ta compagne, tout ça et tu te dis ça c'est kiffant.
C'est intéressant parce que c'est presque contradictoire, c'est-à-dire tu dis finalement le voyage c'est la vie, c'est-à-dire c'est incessant. Et toi tu dis pour que finalement pour qu'il y ait du voyage, pour qu'il y ait un intérêt au voyage, il faut que ça cesse pour donner envie à nouveau de sortir. Mm-hmm. En fait, si le voyage est tout le temps, c'est peut-être de l'errance. Il y a du voyage parce qu'il y a de la sédentarité d'une manière ou d'une autre. Puis, il y a un mouvement. Et puis, on revient. Et puis, il y a mouvement. Sinon, c'est
peut-être... Pour moi, il y a forcément une fin dans n'importe quoi. Il y a, enfin, comme dans la vie, on est, on vit et on meurt. Et en fait, dans n'importe quoi, même si c'est le truc le plus ouf, le plus psychopathe que tu fais, il faut qu'il y ait une fin. Parce que ça peut pas être... il y a une fin. À un moment donné, il y a une fin. Donc, il faut l'accepter. Et j'aime beaucoup cet échange, le yin-yang. Tu pars, tu reviens, tac, tac. Et c'est ça qui te fait bien apprécier.
Ça donne le contraste.
Sur mon livre que j'ai terminé, je compare la vie à la lecture d'une rivière. Si c'était uniquement plat, tout le temps, et il ne se passe rien, on se fait chier. Alors que si c'est tout en rock'n'roll avec des chutes d'eau à passer, des rapides, etc., ouais, c'est rock'n'roll. Mais à un moment donné, ton attention baisse parce que tu n'en peux plus, c'est fatigant, c'est usant et l'erreur va arriver. Donc la vie, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit cool, un peu calme de temps en temps pour apprécier les choses, être capable aussi de se retourner, de regarder derrière, dire voilà, la chute d'eau que je viens de faire là, voilà, le truc de ouf, et juste d'être fier de ce qu'on a fait. Tout en tournant la tête, en regardant ce qui se passe devant, ça sert à rien de regarder dans 20 km parce que c'est bien trop loin. Par contre, de regarder à 3-4 mètres devant soi pour se positionner sur la rivière au mieux et l'appréhender, te dire ouais, là, si je passe là-dedans, je vais me faire découper en morceaux, bah, vaut mieux peut-être passer par là. C'est peut-être un peu moins rock'n'roll, mais plus sûr, etc. Puis des fois, t'es surpris, hop, je m'attendais pas à ça, un truc de dingue. Et c'est comme ça que j'apprécie la vie, c'est parce qu'il y a tous ces moments de haut et de bas. On le dit, la routine est mortelle, mais l'extrême est mortel aussi. Donc, il faut juste trouver l'entre-deux pour que ça soit fun.
Oui, avant que j'oublie, je voulais réagir à ce que tu disais. Donc, sur le contradictoire, moi, en fait, je le vois comme chapitre. Donc, je dézoome. Et donc, la perspective, c'est que tous ces voyages, et dans le voyage, il y a le mouvement et il y a l'étape. Alors, peut-être que pour Rémi, c'est différent parce que c'était toujours en mouvement. Moi, mon voyage, c'est je vais quelque part, je me pose avec les gens, j'en profite. Si je prends mon année en Nouvelle-Zélande, parce que j'étais en plus en train de me remettre énergétiquement, j'ai passé 10 ou 11 mois et j'étais chez 5, 6 autres, j'en sais rien. Bah, j'y allais et il y a un moment où tu sens que c'est le moment de partir. Il y a un moment où tu sens que tu as reçu tout ce que tu avais à recevoir. Il y a un moment où tu sens l'appel du large. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour moi parce que c'est le moment où je recevais des messages de quelqu'un qui déclenchait le truc, où je parlais à une personne et je disais « Ouais, je sens que là, il faut que je bouge, c'est pas trop, machin. » Je reparlais avec la personne le lendemain, tout était calé. Donc voilà, je pense que rivière, c'est excellent parce qu'il n'y a pas de fin à la rivière si on considère que la goutte d'eau n'est pas séparée de la rivière. On est des gouttes d'eau dans la rivière, tu parlais de flot ce matin. Donc voilà, je pense que ça dépend de comment on regarde. Après, pour toi, ça peut être très différent parce qu'il y a un début, une fin, un financement, etc. Pour moi, je n'ai pas forcément de borne. Là, par exemple, je pars à la voile, je sais pas combien de temps ça va durer, et peu importe, ça me va très bien. Et si ça me plaît, c'est ma phrase, si ça me plaît, je reste, si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Et je m'en vais, ça peut dire je m'arrête. Et pour terminer, quand je rentre à la maison, je reviens avec des yeux neufs, je reviens avec plus d'envie et je reviens aussi en me disant oh, « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette nouvelle saison à la maison ?» Tout comme là, tu vois, je suis arrivée de Californie, donc très mauvais, j'ai pris l'avion, mais bon, je suis française. donc j'ai laissé 3 ans de vie en Californie, là, je ne sais pas quand est-ce que je repars. Mais le kiff et le fait de savourer les derniers instants, parce que tu sais que c'est précieux, parce que tu vas le laisser derrière, les petits colibris, les ânes, la mare, le saule pleureur qui est en train de faire grandir ses feuilles, etc. Les petits chatons de ma belle-sœur qui sont microscopiques. Mais tout ça, en fait, quand tu es dans un flot de vie qui n'est pas interrompu en chapitres comme moi, j'aime le voir, et bien ça passe inaperçu parce que c'est toujours plus tard. Et plus tard ne vient jamais. Alors moi, j'ai vraiment des bornes et qui me plaisent. Donc ça répond peut-être à ta question sur des fins ou pas. Mais pour moi, je l'inclus dans un tout.
Mais la vie elle-même a une fin. Hein, donc même si le voyage, c'est la vie. Et c'est aussi pour ça, parce qu'on sait que ça va finir, que c'est bon.
Oui.
Et
on souhaite... Tu n'aurais pas de fin à la vie, ça serait
mortel.
Mortel. On serait chier, on dirait. Et en fait, tu pourrais prendre un mur à 300 km. Ouais, je viens de me prendre un mur et ça recommence. Et donc, c'est parce qu'il y a une fin que c'est excitant et de se dire, faut y aller, mais faut pas cramer les deux bouts. Mm-hmm. Faut être intelligent et réfléchir correctement.
Rémi, alors Perrine, tu disais, vous n'avez pas la même conception, enfin, ou la même conception en tout cas. Toi, tu pars.
Ouais. Le mouvement n'est pas régi par les mêmes envies déjà, je trouve.
Qu'est-ce qui te motive ?
C'est très différent. Moi, je fais des expéditions engagées avec une cause sur l'environnement et la maintenance scientifique. Donc, j'ai des résultats à apporter. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Après, je fais du voyage et beaucoup plus classique où j'aime prendre le temps, j'aime me laisser porter par les choses parce que c'est très agréable de pouvoir juste tout débrancher et de dire j'ai pas d'objectif, j'ai rien. C'est juste les choses qui viennent et qui me guident et qui me donnent envie de continuer. Donc, ce n'est pas du tout la même chose à chaque fois. Il y en a un, tu lèves beaucoup d'argent et il y a des partenaires et tu as des résultats à mettre en place. Mais c'est vraiment ça la différence entre l'aventure très simple, classique qu'on va faire et que je faisais quand j'étais plus jeune et partir en voyage, me laisser porter par les choses et à un moment donné rendre la chose plus professionnelle et de vouloir en faire un métier. C'est qu'à un moment donné, tout comme un entrepreneur qui met en place un business, un projet, il va faire appel à des business angels ou des levées de fonds. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont te dire je te lâche 2 millions d'euros et éclate-toi mon pote et on s'en fout, si ça marche pas c'est pas grave. À un moment donné il y a forcément un retour sur investissement et donc quand on veut avoir un projet comme ça d'exploration et il y a beaucoup de support et de moyens financiers, et bien effectivement il faut avoir un résultat.
Oui, parce que c'est l'une des questions.
Je t'en prie.
C'était l'une des questions qui avait émergé pendant la discussion de la table ronde. Alors, je n'avais pas assisté au début, je dois le dire. Je me posais la question, est-ce que un voyage sans objectif est possible pour vous ? Et là, tu viens de répondre oui, c'est qu'il y a différents types de voyages pour toi. Il y a le voyage, comme tu le dis, l'expédition qui est calibré avec un objectif qui est financé, etc. Donc là, c'est... Mais voyager sans objectif, est-ce que vous le faites ?
Mais qu'est-ce qu'on appelle objectif, tu vois ? Je suis partie en Nouvelle-Zélande avec l'objectif de me reconstruire. C'est un objectif, mais c'était tout. Donc c'est objectif, éclate-toi, suis ta joie. Donc voilà. C'est un objectif.
Et l'objectif, c'est le processus, en fait.
Et l'objectif, c'est aussi le filtre. C'est-à-dire que si ça ne me plaît plus, dans ce cas-là, je ne suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire. Je racontais l'anecdote aujourd'hui d'être à Corfou et de me dire « Ah, c'est une cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai pas de jus, je suis fatiguée, je ne trouve pas le lieu parce que je n'aime pas prendre de cartes, je préfère me perdre. Je me suis bien perdue, je ne peux pas lire les panneaux parce que ce n'est pas dans ma langue, enfin dans mon alphabet. Mm. Et tant pis, ça ne me plaît pas, je change, c'est tout. » Donc, si l'objectif c'est la joie, j'ai toujours un objectif.
Et donc c'est le processus. C'est pas forcément. Il y a
le chemin,
horizon,
pas la destination.
Ouais. C'est davantage l'horizon, ce qui te tend vers, et c'est pas forcément la cible.
Oui. Et je pense que la différence entre voyage et vacances, pour moi, c'est ça. C'est quand j'étais salarié et que j'avais malgré tout 6 semaines de congés par an, ce qui est génial. Je voulais remplir à fond, parce que j'ai bossé toute l'année, et enfin je fais ce que j'aime, donc je veux remplir, remplir, beaucoup d'attentes. Je vais lâcher les attentes, en fait, objectif mais pas d'attente.
Et pour toi, Rémi ?
Je suis persuadé qu'il y a forcément des objectifs, c'est plus ou moins vague, il y en a que c'est des objectifs très définis par un cahier des charges, avec des gens, avec tout un protocole scientifique, environnemental, ce que tu veux, mais il y a un protocole, et là-dessus il y a un objectif, et on doit rendre des comptes. Et puis après, il y a des objectifs qui sont plus spirituels, plus vastes.
C'est presque antinomique pour moi. Ouais, objectif spirituel. Oh.
Non, mais
comment allier c'est la Silicon Valley.
Non, mais c'est vraiment, ça reste un objectif parce que tu peux pas juste te lancer dans quelque chose et te dire je le fais comme ça. Mais il y a pas de comme
et
ça.
Pourquoi?
On fait jamais les choses juste comme ça. Si tu te lances dans quelque chose, c'est parce qu'il y avait un intérêt. Et c'est un bout d'objectif, c'est un truc.
Une motivation.
Voilà, la personne qui va, je sais pas moi, tu te dis, tiens, je vais faire du cheval. Mais pourquoi ? Non, je sais pas. Ah bon, tu fais du cheval, tu sais pas pourquoi, toi. Mmh. Non, juste comme ça. Mais non, c'est qu'il y a forcément un intérêt, il y a un truc qui t'attire, et en fait, par la suite, donc, il y a une attirance, il y a quelque chose, et ça a une forme d'objectif d'aller vers ce truc-là.
Qu'on nomme peut-être pas, mais qui est là.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'on s'en rend compte en marchant.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que vous... Alors, le temps court, mais j'ai encore plein de questions, et c'est passionnant. Qu'est-ce qui...
Il va falloir en enlever.
Ouais, non, voilà.
Ah, c'est cool. Quoi.
Est-ce que, ouais, dernière question peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à prouver dans vos voyages ?
De moins en moins.
De moins en moins. Au départ, il y avait...
Bah, quand j'ai dit je voulais traverser l'Atlantique à la voile et que tout le monde était contre moi, je mets des gros guillemets, mais tout le monde s'inquiétait, je sais pas, machin, nanana, je sais que j'ai vraiment eu ce moment où... J'étais aux Canaries, j'avais traversé seule avec un capitaine. Ça faisait déjà depuis... C'était octobre, ça faisait depuis juillet, juin que j'étais à la voile. Là, je me suis dit, je fais partie du clan. Ils ne me voient pas comme une nana qui ne connaît rien, etc. Maintenant, j'en fais partie. Que je traverse là, maintenant, ou dans un mois, deux mois, trois mois, un an, dix ans, peu importe. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je sais que j'aime la voile. Je sais que qui fait à fond ce qui s'est produit, et je sais que je peux le reproduire. Donc peut-être qu'il y avait ça au début, de se dire c'est faisable. Donc c'est faisable financièrement, c'est faisable physiquement. Même, tu vois, traverser les États-Unis à pied, je me suis jamais dit, il faut à tout prix que je termine. Après, c'est différent, je faisais avec mon chéri. Mais je pense de moins en moins. Je pense que si je regarde tout ce qui s'est produit ces dernières années, de moins en moins. Au début, c'est juste que le regard des autres est encore très pesant de « mais tu te rends compte, ton job, nana, ta carrière, le trou dans le CV, enfin tous ces trucs, et tu te laves couche après couche de toutes ces choses, et tu fais émerger encore plus ta voix, ton envie, et si elle est là, alors elle peut être satisfaite.
» Et oui, ça me fait penser à une phrase de... Son nom m'échappe. On part pas pour s'enrichir, se garnir comme un sapin de Noël, pour être plus, mais au contraire pour se laver et pour se dépouiller de soi.
Ouais, je la connais pas, mais très juste. Bah, c'est ce que dit Nicolas Bouvier, enfin tout le monde.
Nicolas Bouvier, ouais.
Ah oui, bah voilà. C'est pas le sapin de Noël.
Et oui. Et toi, Rémi ?
Maintenant, non. Enfin, ça m'intéresse plus. J'ai rien à prouver. Par contre, j'ai eu... ce manque de reconnaissance de la part de mes parents. Et j'avais besoin qu'ils soient fiers de moi. Et je pense que j'ai fait un peu tout ça au début, juste pour leur montrer que Rémi était capable de faire autre chose que d'être dans un restaurant et de porter des assiettes. Parce qu'on en revient à ce que je t'expliquais sur la table ronde, c'est le jugement des autres et le regard que l'on porte. Et quand on est dans la restauration, en tout cas quand j'ai commencé, moi, j'ai fait un bac technologique en restauration. Donc, j'ai appris le service à l'anglaise, le service à la française, le découpage, etc. Et quand j'ai travaillé dans la restauration, je tombais avec des collègues de travail qui, eux, étaient en train de passer un master en droit, un master en médecine, et ils travaillaient. Et ils avaient le même poste que moi, ils gagnaient la même thune que moi. Je dis, mais comment ça, t'as pas fait d'études dans la restauration ? Il fait, non, je suis en train de passer des études pour être médecin. Ah oui. Et c'est là où je me posais la question de quel était l'intérêt d'avoir passé autant de temps à l'école pour apprendre la restauration alors que bah, suffit de travailler. Et donc j'avais ce manque de reconnaissance de mes pères, on va dire, dans la restauration et toujours ce t'es qu'un simple serveur. Et encore une fois, on en est sur du jugement, sur montrer du doigt l'autre, etc. Et j'avais besoin voilà, d'avoir un peu de reconnaissance de mes parents. Je l'ai toujours dit, je ne le cache pas, quand j'ai fait ma première aventure en Australie, j'en avais strictement rien à foutre de crever en milieu de l'Australie. J'aurais pu faire n'importe quoi, s'il fallait dépecer quelqu'un pour le manger, je l'aurais fait. J'avais aucune limite, j'avais juste besoin de me prouver que j'étais capable de faire ça et de faire fermer la bouche à plein de personnes, dire « je vais vous montrer que je suis capable de monter un projet, de le réaliser et d'aller jusqu'au bout ».
Merci. Pour ce...
Oui. Mais j'ai pas faim, hein, je vais manger personne, t'inquiète pas. Et
puis comme tu le disais, ça a évolué.
Ouf.
Merci beaucoup. On pourrait discuter encore énormément de temps en votre compagnie. Merci Perrine, merci Rémi d'être venu dans les studios, dans la caravane de Fréquence 7.
Et oui, on a Plex à la technique.
Oui, je n'ai pas présenté. Bonjour Plex à la technique. Plex qui va nous lancer la sonothèque d'Hélène. Et on va voir quel témoignage elle nous a moissonné aujourd'hui.
La sonothèque de la joyeuse escale avec Hélène Courtel.
Merci beaucoup.
Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 mai, Allô la planète et Fréquence 7 vous invitent à partager les aventures des festivaliers.
Allô la planète! Avant-dernier jour du festival et dernier jour de la sonothèque, mais on continue à rencontrer les festivaliers. Et ce matin, un beau soleil et un ciel bleu nous entourent. On est très contents d'avoir chassé la pluie à Joyeuse. Et je suis à côté de Cécile, qui vit son premier festival à la Joyeuse Escale. Bonjour Cécile.
Bonjour Hélène.
Ce que tu as découvert, est-ce que tu pourrais nous décrire l'ambiance du festival ?
Alors, il y a plein de choses sur ce festival. Il y a plein d'espaces différents. Ça me plaît bien. Tout est accessible en entrée libre, à part les projections des voyageurs, mais qui sont vraiment à un tout petit prix. Après, il y a des stands avec des voyageurs qui ont écrit leurs livres, des stands plutôt créatifs. Il y a une scène musicale tous les soirs. Il y a plusieurs projections par jour. Il y a des tables rondes avec des auteurs et conférenciers. Après, tout ça, c'est pour moi le programme parce que je suis bénévole. Donc, j'ai pas le temps tant que ça d'en profiter. Il y a un catering aussi quand même qui nous fait le repas tous les jours pour nous et les festivaliers.
Et il faut dire qu'on se régale avec la nourriture ici. Hein ?
On se régale avec toutes les formes de nourriture.
Et alors, est-ce que tu as eu un coup de cœur ? Bon, t'as pas eu beaucoup de temps, mais est-ce que quelque chose a retenu en particulier ton attention ?
Oui, le film d'ouverture, Vertige, qui pour moi est... Un documentaire high level, un vrai gros beau documentaire, extrêmement poignant, extrêmement touchant, qui je pense aborde autant presque plus le voyage intérieur que le voyage. Enfin, c'est l'histoire de trois prisonniers qui ont été entre guillemets sélectionnés après maintes épreuves physiques au sein d'une prison pour faire l'ascension du Mont Blanc. Et donc c'est un film sur tout ce parcours qu'ils vont vivre jusqu'au sommet. Et c'est aussi donné à voir sur les prisonniers, dont on parle finalement peu. Et puis ces personnes qui sont des gangsters, ou qu'on fait des choses qu'il ne faut pas faire, on les aime bien à l'arrivée du film en fait. Surtout qu'on a eu la surprise de leur venue et de pouvoir échanger avec eux. Alors là, ça a été ultra émouvant, parce qu'ils ont, grâce à ce courage, eu des remises de peine assez importantes pour un. Ça a été un film vraiment fort pour moi.
J'ai croisé Emma et Romain qui viennent juste d'arriver sur le festival. Pour Emma, ça n'est pas un terrain inconnu, étant donné qu'elle était déjà présente l'année dernière. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition de Joyeuse Escale ?
De voyager, de voir de beaux paysages, d'être emporté un peu ailleurs.
Et alors Romain, c'est une découverte le festival. Et qu'est-ce que tu attends toi ? Est-ce que tu es venu là juste pour la vadrouille ou est-ce que tu as des attentes particulières ?
Bah non, j'ai pas d'attente particulière. Après Emma, vu qu'elle est venue l'année dernière, elle m'avait dit que c'était un chouette festival. Donc il y a des concerts, il y a des projections. Et moi aussi, j'aimerais bien voir les expositions des voyageurs, surtout à vélo, parce qu'on a fait des voyages à vélo avec Emma. Donc ça nous touche particulièrement. Mais non, pas d'attente particulière. On se laisse porter.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait comme voyage jusqu'à présent en vélo, par exemple ?
C'était en 2019, c'est ça, hein ? Ouais, on était parti de Nantes pour aller jusqu'en Hongrie pour un festival qui s'appelle le Ozora. Et après, on était remonté jusqu'au Danemark, Suède, et on était revenu. Ça avait duré un peu moins de 6 mois. On avait fait 8000 km, 7000, 8000, et c'était chouette, c'était un beau projet qu'on avait fait. Et depuis, bon, on continue à faire du vélo, mais plus à la journée, voilà. Et Emma était venue l'année dernière à vélo au festival.
Vous avez d'autres projets voyage ?
Oui, toujours des projets, mais là on a acheté un appartement à rénover, donc c'est un nouveau projet, mais c'est plus, on se sédentarise, mais voilà, c'est bien de voyager aussi à travers les autres.
Merci beaucoup, beaucoup à tous les festivaliers d'avoir bien voulu partager les anecdotes du festival et les moments forts. On se retrouve très bientôt sur Allô la planète.
C'était la Sonothèque de la Joyeuse Escale 2023. Une rencontre avec le public du festival, imaginée par la web radio Allô la planète.
Merci Hélène pour cette moisson du jour. Merci et bienvenue à Gauthier.
Bonjour.
Merci. Bonjour Gauthier.
Merci pour l'invitation.
Gauthier Histin qui nous a rejoint. Qui est Gauthier Histin?
Bah, c'est moi, mais j'imagine que...
Comment se présenter?
Bah, c'est intéressant, j'écoutais un petit peu les invités juste avant qui disaient qu'en effet il y avait plusieurs façons de voir les choses, mais moi je pense que je suis juste quelqu'un comme tout le monde, voilà. Je pense que c'est la meilleure chose, qui essaye différentes manières de s'exprimer, et le voyage ça a été un bon moyen de faire plusieurs expériences, voilà, dans ce sens là
Est-ce que ça a été un moyen de découvrir un peu aussi vers quoi tu tendais, de nouvelles peut-être passions, de nouveaux savoir-faire, je ne sais pas.
Ouais, en effet, ouais, j'ai écrit mon premier livre là sur cette aventure solo dedo en Argentine. Mmh.
Donc juste pour bien recadrer, tu es parti pendant 6 mois, c'est ça? En Amérique du Sud?
Ouais, en fait, je me suis retrouvé, le fond de l'histoire, c'est que je me suis retrouvé après une histoire ratée d'une histoire avec une femme avec qui je voulais m'installer au Brésil. Je me suis retrouvé en Amérique du Sud livré à moi-même. Sans objectif et sans projet là-bas, et je me suis dit que c'était intéressant, de un peu de la manière de l'autostop, de réussir à rebondir sur les choses qui nous arrivent, comme dans l'autostop un peu tous les jours, on choisit pas des fois où on va aller, où finit la journée. Et voilà, j'ai essayé de faire un peu ce qui m'animait quand je lisais plus jeune des aventures de Jacques Kerouac et des choses comme ça, je me suis dit, du sud de l'Argentine, j'ai remonté jusque la Nouvelle-Orléans en stop, voilà. Mais avec des contraintes que je me suis auto-imposées, bien sûr.
Qui étaient
essayer de pas dépenser, essayer de, un peu la manière vagabond, quoi, essayer de comprendre les mécanismes d'un voyage sans argent, sans tente aussi. C'était important pour moi d'aller chez les gens. Ouais, évidemment, c'est des choses qui arrivent quand on voyage en autostop. Mais aussi trouver des solutions un peu tous les jours avec une tente. En fait, plus j'ai trouvé que plus on avait de matériel et plus on trouvait des solutions, soit pour s'isoler ou soit pour... Voilà, donc j'avais envie de partir le plus simplement possible, quoi. Le plus léger possible.
Après 6 mois, donc tu es revenu en France.
Ouais, je suis revenu. Je suis revenu en France. Maintenant, je vis en Bretagne avec deux ânes, Billy et Jaco. et depuis cette aventure complètement initiatique, presque. Enfin, j'avais beaucoup voyagé à l'étranger dans mes jeunes années, mais en travaillant tout ça, voilà, je me suis dit que c'était aussi important de creuser un territoire local et de comprendre comment ce que j'avais vraiment... J'avais posé le doigt sur ce qui m'animait dans le voyage, et j'avais envie de le reproduire en France, en fait, d'une manière plus lente aussi.
Et qu'est-ce qui t'animait, du coup, dans le voyage? Tu as pu comprendre quelle était la motivation?
Je crois, ouais.
Ouais.
Je crois.
Est-ce que tu peux nous la dire?
Un peu de sucre, un peu de... moi, je pense qu'en fait, vraiment, c'était la...
Du Queen Yaman, beaucoup de beurre.
Beaucoup de beurre, ouais. Dans Arctic Fools, d'ailleurs, j'ai bien aimé comment il mangeait le beurre à pleines dents. Ça m'a beaucoup plu. C'était la surprise. La surprise, vraiment. Mm. Et je crois pas grand-chose de plus. Au final, j'ai trouvé ça fantastique de voir des beaux paysages et des choses comme ça, c'est sûr que je le souhaite à tout le monde, mais je trouve que c'est juste essayer d'aider au plus la façon d'accéder à la surprise, quoi. De réussir à s'étonner de petits détails et de choses comme ça. Et en fait, on peut complètement le faire en partant de chez soi à pied, quoi, avec des ânes. Bon, les ânes, c'est des animaux complètement fantastiques. Je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger là-dessus. Mais...
Oui.
Et voilà, ouais, réussir à se faire surprendre. Et... Bon, du coup, en voyageant, en marchant, mais aussi dans le quotidien, quoi. Réussir à toujours trouver la petite chose qui permet de s'épanouir là-dedans et donc le partager ensuite. Enfin, c'est aussi ça la finalité, partager ça avec les autres, quoi. Essayer de montrer qu'on peut toujours aller de l'avant, quoi.
Et le partage, pour toi, prend quelle forme ?
Bien, au jour d'aujourd'hui, beaucoup dans l'expression artistique. Je fais de la musique et donc j'écris des chansons sur la route. Donc ça c'est dans des représentations où les gens écoutent. Mais sinon, en fait, dans des discussions, tout simplement. Enfin, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses autour d'une table. Enfin, faut toujours avoir ce côté un peu d'humilité qui pourrait... essentiel, enfin, je pense. Enfin, ouais.
Avec un micro à poil.
Oui, c'est pas mal aussi. Oui, c'est vrai, c'est bien poli, ouais.
C'est pas mal, oui.
Ouais, c'est... d'ailleurs, Super Blues, que j'ai écouté, que tu m'as fait écouter, et qui sera d'ailleurs... tu as fait un concert hier, ici
c'est
même.
C'est ça.
Et demain, à 15h.
Oui, à 15h,
c'est une lecture musicale.
C'est ça. C'est ça, ouais.
Parce que aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as écrit aussi.
C'est ça, oui.
Donc c'est issu d'un carnet de voyage.
C'est ça, ouais.
Carnet de voyage, ton épopée.
C'est ça, ouais. Le épopée, c'est un grand mot, hein, mais c'est juste, oui.
Je pense qu'on peut dire épopée.
Oui, j'écris un carnet tous les jours. Je pensais vraiment pas en faire un bouquin, en fait. Et ça m'a intéressé jusqu'au dernier jour, quoi. Mais j'écrivais quand même tous les jours et ça m'a intéressé de montrer aussi à quel point c'était possible sans éditeur, sans... Moi, j'ai fait la mise en page sur un Adobe InDesign piraté. Montrer que c'est possible, sans forcément être très littéraire, de juste parler simplement de ce qui arrive, des tableaux qu'on peut croiser, des personnes qu'on peut rencontrer, tout ça. Et donc j'écris ce carnet-là et 10 chansons sur la route. Et voilà, il y a le mélange des deux qui est apparu sous la forme d'un journal que je fabrique à la main. Et voilà.
Ouais, c'est ça, tu fabriques, c'est ce que je disais, un faiseur de livres.
C'est un plus.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Comme j'ai dit, pour montrer. Enfin, c'est pas forcément pour montrer, mais.
Mais à la main.
À la main ?
Jusqu'au bout, tu vas proposer quelque chose, une part de toi.
Il y a un peu de ça, et puis vraiment, je trouve que c'est intéressant de je veux vraiment pas sembler prétentieux, mais je trouve que c'est chouette de savoir qu'il y a un exemple possible, que en fait n'importe qui peut en fonction de ce qu'il a envie de raconter peut arriver à faire un bouquin.
C'est important pour toi, ça, de transmettre finalement ce que toi, tu as découvert en créant. Est-ce que c'est important de transmettre cette idée que c'est possible pour tous ?
Carrément, ouais. Ouais. Pas forcément le contenu, mais en tout cas la démarche. La démarche d'essayer, c'est comme partir en voyage, en fait, au final. C'est une aventure qui a un résultat physique, c'est essayer les choses et puis prendre prendre chaque problématique une par une et puis voilà.
Et maintenant que tu as compris le ressort de ton envie de voyage, qui est être dans la surprise, est-ce que tu arrives plus à la percevoir, à la sentir autour de toi, une fois que tu as mis le doigt là-dessus? Est-ce que dans ton quotidien, là, tu te laisses embarquer par les surprises. Est-ce que tu vois la surprise partout?
Ben, j'essaye. C'est vrai que tout le monde, on a tous un agenda, on a tous des choses comme ça. En vivant en Bretagne, c'est voilà, y a des choses qui se mettent en place, mais ouais, je pense que c'est une recherche, en tout cas, de replonger dans ces choses-là au plus possible. Voilà. Et c'est souvent par intuition, quoi. Souvent une personne qui paraît intéressante, voilà, un lieu qui me paraît atypique, que ce soit un petit PMU, ou je sais pas, enfin, faut juste regarder les détails, quoi. Ouais.
Et le fait d'avoir cette relation, du coup, avec tes ânes, ça m'intrigue. Est-ce qu'ils sont aussi, je dirais, des déclencheurs, peut-être, aussi, dans ton art musical, ou pas du tout?
Ouais, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, là, j'ai écrit un deuxième livre suite à ça, et que j'ai pas encore fini de mettre en page sur ce logiciel piraté, mais oui et
vous êtes sur fréquence 7
et c'est un rythme qui a beaucoup plus de douceur qu'un voyage en autostop, quoi. Et donc oui ça m'a inspiré des nouvelles chansons et un nouveau carnet qui est peut-être plus terre à terre mais rempli d'une substance un peu concrète, que j'aime beaucoup, quoi.
Yeah. Parce que les ânes apprécient particulièrement la musique. Est-ce que tu as déjà joué pour eux?
Ouais, ça m'arrive souvent. Ouais. Bah, après, je sais pas si c'est des projections ou des fois j'ai l'impression qu'ils réagissent, des fois non. Mais c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps, en tout cas sur une rando des longs cours, par exemple, quand on passe beaucoup de temps, il y a vraiment des choses perceptibles, quoi. Et c'est pas du tout pareil d'avoir les ânes au champ, à la maison, qu'en randonnée. Ouais.
Oui, complètement d'accord.
Oui.
Alors, je ne pensais pas du tout à ce jeu de mots. J'arrive comme un cheveu sous la soupe. Mais je me disais... on te présente aussi comme champion de coupe mulet.
Ouais, c'est vrai, en effet, ouais.
Alors, quel est le lien? Allongez-vous, nous allons psychanalyser tout ça, entre la coupe mulet et la balade avec les ânes. Mais, qu'est-ce que c'est?
Ah ben,
d'où ça vient?
Franchement, je n'ai pas grande idée. C'est un festival en Belgique, voilà, de gens qui sont très, très bien intentionnés. Il y a beaucoup de valeurs intéressantes à creuser là-dessous. Voilà, c'est pas... Il y a beaucoup de dérision et beaucoup de subtilité dans la manière où le festival avait été amené par nos amis belges qui ont fait ça. Et voilà, bah moi, il s'avérait que j'étais programmé avec mon groupe de musique pour jouer dans ce festival. Et j'étais sur place et puis voilà. Voilà, bah je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est juste une coupe de cheveux, en fait. Mais...
C'était un défi, c'était...
Ah non, moi, cette coupe de cheveux, je trouve ça rigolo de voir les gens réagir un peu...
Provoquer la surprise.
Ouais, un peu. Il y a un peu de ça. Y a un peu de ça, ouais. Ah, ouais.
Finalement, tu leur ouvres des portes de voyage.
Exactement.
Ça fait beaucoup de choses, une coupe de cheveux, mais oui.
Eh ben, merci beaucoup. Ah,
un grand plaisir. Ouais.
Merci Gauthier.
Ouais, merci Gauthier d'être venu ici dans la caravane de Fréquence 7. Et on a parlé pas mal de musique. Et ben, on va continuer en musique tout de suite. We'll be right back.
Cover. Alors c'est Pascalito qui jouait au Square, donc cet après-midi, qui avait une heure de concert, et lui aussi est un grand voyageur. Là c'était une reprise en l'occurrence, mais il a des créations, et cet après-midi c'est ses créations qui sont le fruit finalement de toutes ses rencontres, de tous ses voyages. Il est italien d'origine, et il a son petit accent d'ailleurs très agréable quand on l'entend chanter, et il produit donc ses propres créations en chanson. C'est une petite merveille qui nous fait bien voyager.
Oui, c'est Pascalito Giramondo. Et parce oui, qu'en italien, Giramondo, ça veut dire globetrotteur.
C'est ça.
J'aime beaucoup. Ben voilà, encore la musique qui nous fait partir. Qui nous fait partir doublement, là. Inspiré des voyages. Et puis, de toute façon, la musique est un voyage. On continue de partir en voyage avec Emeline qui nous a rejoint.
Bonjour Emeline.
Bonjour, merci de me recevoir.
Emeline qui va nous parler d'une plateforme. Une plateforme de volontariat qui s'appelle Travel with a Mission.
C'est ça. C'est exactement ça.
Travel with a Mission. So, Emeline, qu'est-ce que c'est que Travel with a Mission, qui est
tout récent.
Oui, donc, c'est ça. Ça, exactement. Alors du coup, Travel with a Mission, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans par Ludovic Hubler. C'est un aventurier qui a fait un tour du monde pendant 5 ans en stop, qui a écrit un livre et qui s'est rendu compte de tous les besoins qu'il y avait dans ce monde, en fait. Que le monde est super en voyage, mais qu'il y a beaucoup de pays, de pays qui nécessitent de l'aide. Donc du coup, après ça, il a décidé de créer une plateforme de volontariat afin de... Comment expliquer
de mettre, en rapport peut-être les besoins et les envies, les besoins de volontaires dans certains c'est pays ça. Et les envies de chacun.
Oui, totalement.
C'est ça, de mettre en relation.
En fait, il souhaitait que les associations deviennent un peu indépendantes au niveau financier, parce que c'est vrai qu'elles sont aidées par les États, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Donc il s'est dit, ok, il y a des besoins, elles ont des missions à proposer, donc... Il y a forcément des personnes qui veulent partir en voyage humanitaire. Donc, on va proposer ça. Donc, nous, notre but, en fait, c'est de contacter les associations, de vérifier si elles sont fiables, de vérifier ce qu'elles proposent, d'essayer de les informer sur le fait que les personnes qui souhaitent partir en volontariat sont souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent juste aider, contribuer. Donc, on essaie de fixer avec elles des prix qui sont accessibles à tout le monde. Elles proposent un package. Donc, elles vont proposer, comment dire... un logement, ou alors elles vont proposer de la nourriture, donc vous allez payer pour un package, avec raisonnabilité. Enfin, c'est vraiment raisonnable, les prix.
C'est ça, c'est ce que tu m'expliquais un petit peu hors antenne, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit accessible.
Ouais,
parce, et quelquefois même gratuit. Mais ça, tu me disais, finalement, ça dépend à la fois des pays... dans lesquelles sont ces structures et des structures elles-mêmes.
Totalement.
C'est-à-dire il y a une fourchette, alors ça va de la gratuité à quelques centaines d'euros.
C'est ça. On essaie au maximum de demander aux associations de baisser leurs prix afin que ce soit accessible, mais comme je vous ai dit, il y a des assos qui ne vont pas forcément accepter de baisser le prix, mais on met tout en œuvre pour que ce soit le plus accessible possible, évidemment, pour tout le monde. Ça, c'est super important pour nous et pour les valeurs qu'on veut générer. C'est pas du tout le but de faire de l'argent et de profiter de l'argent des bénévoles. C'est pas du tout le but, en tout cas.
Oui, et à cet endroit-là, je trouve que c'est vraiment c'est assez sain, parce que on a l'impression, depuis quelques années, qu'il y a un business aussi qui se fait autour de ça.
Oui, complètement.
Totalement. Et que certaines associations, certaines structures se disent, bon, il y a des Européens qui se prennent un peu pour des sauveurs, on va en profiter, on va leur dire, venez reconstruire un orphelinat en Afrique et payer 1500 euros votre semaine pour reconstruire l'orphelinat.
Enfin, c'est ça. Donc, totalement.
Alors que là, voilà, il y a quelque chose d'assez sain. Vous essayez de...
Bien sûr. On essaie au maximum. Et il y a beaucoup de missions aussi où c'est de l'animation. Donc, ça coûte pas très cher de faire de l'animation, finalement. Il n'y a pas besoin de matériaux énormes. Il n'y a pas besoin de grosses dépenses. Donc, c'est des missions qui sont assez peu chères. Mm-hmm. On a des missions qui sont à 40 euros la semaine. Il y a des missions qui sont gratuites. Il y a des missions qui sont un peu plus chères. Mais dans ce cas-là, c'est juste parce que, justement, les matériaux demandés sont beaucoup plus chers. Et l'asso a besoin de fonds pour faire tout ça.
Vous proposez des missions, vous mettez en relation avec des structures dans combien? Plus de 100 pays,
ouais,
c'est ça?
Oui, plus de 100 pays. Ouais, on est actifs partout.
En France aussi?
En France aussi. Alors, on a moins fait l'Europe parce qu'on... Je sais pas, on s'est dit que pour l'instant, il y avait moins besoin d'Europe. Mm-hmm. On a privilégié les pays d'Afrique, les pays d'Asie. Mais on y travaille. Là, on est en train de travailler sur l'Europe pour vraiment... remplir un peu la plateforme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent l'Europe quand même, finalement. On s'était dit non, et puis il y a beaucoup de personnes.
Et finalement, voilà, c'est peut-être aussi ce qui se passe avec les voyages. On se dit, peut-être pas forcément besoin d'aller aider quelqu'un de très très loin. Il y a aussi besoin là.
Totalement.
La plateforme, il y a deux types de mise en lien, c'est ça, qui sont différentes. Il y a deux plateformes en une.
Exactement.
Alors là, on a parlé d'un pan qui est l'offre, on va dire, de mission, de volontariat.
Ouais.
Et je te laisse.
Et du coup, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme de Twaming. Twaming parce que Travel with a Mission, ça vient de là, c'est pas...
Twaming. Au début, je me disais, mais ouais, Twaming. C'est ça, le Twaming.
Bientôt dans le dictionnaire.
Toi, alors, travel with a mission, le toiming, qu'est-ce que c'est?
Alors, du coup, le toiming, c'est un partage de connaissances entre toujours des bénévoles, des structures qui vont accueillir les bénévoles. Là, c'est un peu différent, c'est une plateforme qui est totalement gratuite. C'est juste pour faire du lien, en fait, entre les deux. Parce que parfois, on part en voyage une semaine et on se dit, OK, j'aimerais bien aller dans un orphelinat afin de juste faire de l'animation. Et on ne trouve pas forcément, parce qu'il faut payer et qu'on n'a pas une grande semaine devant nous. Mm-hmm. Du coup, c'est juste une plateforme qui vous permet de partager vos connaissances, vos compétences. Si vous jouez de la guitare, si vous faites quelque chose, si vous aimez lire des livres, allez-y. Recherchez à une école et vous verrez, je pense que vous passerez un bon moment.
On a, ouais, le temps nous presse. Donc, on trouve tout ça sur la travelwithamission.org.
Exactement, ouais.
Ou Traming, si on tape Traming, on y arrive.
C'est ça.
Je voulais juste repérer, parce que là, c'est vrai qu'on a abordé quelques questions. Sur le Travel with Mission, il y a une petite ligne que j'ai beaucoup aimée. Surtout ne pas venir en donneur de leçons et en sauveur du monde.
C'est parfait, c'est ça.
Merci Emeline, c'était très court, mais c'était, je pense, assez intéressant de mettre en lumière ça. Là, ça y est, on retrouve la Terre, on est parti une heure en voyage, c'était bien chouette, et c'est d'ailleurs la dernière émission du festival, mais le festival continue demain.
Oui, jusqu'à 16h.
Demain jusqu'à 16h. Vous êtes peut-être à l'écoute de cette émission sur Fréquence 7 à 20h, sur Allô la planète à partir de 21h, et en replay sur les deux sites fréquence7.net, ce sera en replay dès 21h, je pense. Mmh. Et Allô la planète, ce sera en replay la semaine prochaine. Mmh. Merci beaucoup, Plex.
Merci Plex.
Merci
Méline. Merci beaucoup, Flo, pour ce très beau voyage.
Sophie aussi.
Et merci à nos invités qui étaient là avec nous. Allez, on reprend le large. Et puis, nous, on se retrouve sans doute l'année prochaine. Mais le voyage est partout et tout le temps.
Exactement.
Retour au Rafio, Moussaillon, cap vers de nouvelles aventures. C'était le feu de camp d'Allô la planète, présenté par Fréquence 7.